les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous écoutons le parcours et les conseils d'un avocat orateur. Bonjour Bertrand Perrier.
Bonjour.
Avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, vous enseignez l'art oratoire à Sciences Po, à HEC, grande école de commerce, mais vous êtes surtout là parce que vous êtes connu pour être l'un des coachs du programme Eloquentia, une sorte de star académie de la joute oratoire à l'Université Paris 8 Saint-Denis, un campus qui rassemble beaucoup d'étudiants pour qui la parole ciselée n'est ni une évidence, ni une lame tranchante. Et vous publiez « La parole est un sport de combat » aux éditions Jean-Claude Lattès. Autant dire que les mots doivent pour vous d'abord servir l'action. Ce n'est pas le miroir des vanités.
Ah non, si la parole est autocentrée et ne sert qu'à satisfaire son ego, elle n'a aucun intérêt. Elle sert à aller vers l'autre pour le convaincre et partager ses idées.
C'est votre conception de la parole publique. Donc, alors, bien parler pour convaincre, c'est une qualité socialement mal partagée. Vous allez bien nous l'expliquer. Et nous allons suivre pas à pas vos conseils d'orateur pour libérer la parole. C'est vraiment le verbe que vous employez d'ailleurs. Alors, pas la parole des réseaux sociaux façon j'accuse et je largue, hein, mais plutôt celle qui argumente, qui a le pouvoir de convaincre. N'hésitez pas, quant à vous, les voisins, à poser toutes vos questions dès maintenant pour libérer votre parole. Le numéro de téléphone qui doit sonner au plus vite, 33 1 84 22 71 71, et bien sûr tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et puis en fin d'émission, on écoutera une femme qui, elle aussi, combat à sa manière par la parole. Shirine Kankan, imam danoise. Elle a fondé une mosquée pour les femmes et elle revendique un féminisme islamique. Et vous nous direz d'ailleurs, Bertrand Perrier, si vous restez jusqu'à la fin de l'émission, j'espère.
Bien sûr.
Si vous la trouvez convaincante. Alors, je vous lis quelques messages Facebook sur l'art oratoire. Jamal est à Abidjan et nous dit « Mon véritable problème, moi, c'est mon manque de confiance en moi. Lorsque je fais une présentation en public, par exemple, je me perds dans les détails. » On en parlera de ça.
Oui, bien sûr, très volontiers.
Massala, à Brazzaville, prendre la parole en public est un art. Ton leadership au sein d'un milieu social en dépend, il veut dire la communauté, hein, et c'est quelque chose d'inné. Réponse de Mahamat dans le sud du Tchad. Non, ce n'est pas inné, on peut apprendre à parler correctement avec des exercices. C'est ce que vous prenez ?
Oui, bien sûr. Alors, il y a une part de don, mais il y a aussi une part de travail. Il y a des gens qui sont naturellement charismatiques, tant mieux pour eux. Moi, c'était pas mon cas, donc j'ai voulu donner mes recettes d'anciens timides.
Un voisin à Yaoundé nous dit « Si vous pouvez capter l'attention de quelqu'un par la parole, alors vous pouvez aussi le manipuler à votre guise. Les prédicateurs des nouvelles églises ont bien compris cela et c'est pourquoi ils manipulent et détournent autant de conscience. »
La parole est une arme. Comme toute arme, elle peut être mal utilisée.
33 1 84 22 71 71. Appelez-nous, quel que soit votre dessein, pour bien parler. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous contacter sur les réseaux sociaux et nous vous appelons immédiatement.
7 milliards de voisins.
Oui, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Oui, Zolo.
Soyez les bienvenus.
Bertrand Perrier, alors justement, vous le disiez, moi-même, ce n'était pas un talent inné. Comment vous êtes passé de timide à prof d'éloquence ?
En me faisant un peu violence moi-même. Je me suis dit que je ne pouvais pas rester comme ça longtemps dans une timidité presque maladie, avec les jambes qui flageolent, avec les rougissements, avec la sueur quand on doit parler, et qu'on est dans un monde de communication orale, et pour aller vers les autres, l'oralité, c'est absolument nécessaire. Donc j'ai passé des concours d'éloquence. Pas d'ailleurs pour les réussir, d'ailleurs je les ai beaucoup ratés, j'en ai réussi aussi un peu à la fin, mais comme un défi sur moi-même. L'idée était de sortir de ce cercle vicieux de la timidité pour aller vers les autres.
Alors vous avez raté le grand oral de l'ENA,
bah oui.
Vous avez réussi à HEC, vous avez fait Sciences Po, vous avez été secrétaire de la conférence du stage. Il faut expliquer à nos auditeurs ce que c'est que la conférence du stage quand on est avocat ou apprenti.
Alors,
avocat.
La conférence du stage, c'est un concours d'éloquence qui rassemble les jeunes avocats. c'est-à-dire moins de 35 ans et moins de 5 ans d'expérience. Et donc, c'est un concours qui se déroule au Palais de Justice en 3 tours et qui désigne 12 lauréats chaque année.
C'est pas un exercice obligatoire.
Non, non, c'est un exercice facultatif. Et encore une fois, moi, je l'avais passé comme un défi sur moi-même. Je l'avais pas du tout passé pour l'avoir. D'ailleurs, j'étais allé voir l'année précédente les candidats et je m'étais dit, oh, quelle merveille, je serais incapable de faire ça. Donc, il faut vraiment se dire qu'on peut le faire.
Ouais. Donc vous, vous êtes passé par la douleur pour l'art oratoire, finalement, avant la jubilation.
Oui, d'une certaine façon, ce n'était pas un parcours semé de roses.
Parce que pour certains, il y a d'emblée cet appétit.
Oui, bien sûr, ce n'était pas mon cas. Et l'idée de ce livre, c'est de dire, bah, si j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver aussi.
Est-ce qu'on peut être un bon avocat sans être un bon orateur? Alors, je ne parle pas d'un avocat fiscaliste en entreprise.
Non, mais d'abord, il y a plusieurs façons d'exercer le métier d'avocat. On peut effectivement avoir une pratique exclusivement écrite, avec des argumentaires, et ne jamais aller plaider. C'était d'ailleurs l'exercice auquel je me destinais à l'origine. Et puis, je me suis dit qu'il me manquait quelque chose, parce que quand même, l'oralité de l'audience, le sel des rapports humains, c'est important aussi. Et être un avocat, c'est d'abord un porte-parole. Et si on porte la parole de l'autre, il faut la porter jusqu'au bout, c'est-à-dire jusque vers le juge dans l'oralité.
Une fois que vous avez acquis ce talent de la parole, comment vous êtes passé des grandes écoles à l'Université Paris 8 avec le programme Eloquentia? Comment a débuté cette histoire-là?
Alors ça, c'est vraiment les hasards de la vie. Quand j'ai donc passé les concours d'éloquence des avocats, je suis intervenu pour faire jury de concours d'éloquence. Parce que vous savez que dans les universités fleurissent maintenant les concours d'éloquence dans les universités de droit, mais pas seulement à Sciences Po, à HEC. Maintenant, toutes les écoles ont leur concours d'éloquence. Et donc, j'avais fait jury de concours d'éloquence et j'étais intervenu dans une association qui s'appelle la Conférence Olivin, qui proposait à ses membres des formations à l'art oratoire. Et l'un de ses membres, quelques années plus tard, a créé Eloquentia. Et m'a dit, est-ce que tu veux monter dans cette aventure que je crée en Seine-Saint-Denis? C'est comme ça que je me suis retrouvé en Seine-Saint-Denis.
C'est ça, passé de Sciences Po à Saint-Denis, hein, on est bien d'accord. Avec un tout autre public ou pas tant que ça?
Oui, tout de même avec un autre public, même si le public de Sciences Po est extrêmement divers, et une diversité d'ailleurs qui s'est accrue avec les années, puisque maintenant il y a des conventions d'éducation prioritaire qui permettent aux lycéens de zones d'éducation prioritaire d'avoir un concours spécifique pour entrer à Sciences Po et pour accroître la diversité sociale des étudiants, ce qui marche d'ailleurs très bien parce que au cours de leur cursus, le rattrapage se fait et ils sont diplômés aussi bien que les autres et ils s'insèrent professionnellement aussi bien que les autres. Malgré tout, évidemment, on a en Seine-Saint-Denis un public qui a une langue parfois un peu plus brutale, un peu plus dure. Et donc, c'est ce langage-là qu'on essaye de polir et d'améliorer.
Comment ça marche, le programme Eloquentia? D'abord, on est volontaire. Hein,
on est évidemment volontaire. On passe une petite audition parce qu'on a beaucoup de succès. Et donc, la rançon du succès, c'est qu'on ne peut pas accepter
ça,
tout le monde.
C'est vraiment la Starac de l'art oratoire.
Si vous voulez, l'art oratoire, c'est d'abord une matière humaine. Donc, on ne peut pas l'enseigner à un amphi de 500 personnes. Et donc, il faut qu'on ait des petites promotions. Donc, on limite à 30. Malheureusement, on ne peut pas faire davantage. Et ensuite, ils viennent tous les samedis, entre janvier et avril, à l'université. Ils n'ont rien à y gagner. D'ailleurs, ce sont des volontaires. Ce sont des gamins extrêmement déterminés. Et ils n'ont pas de points, ils n'ont pas d'argent. Enfin, c'est, il n'y a aucun gain matériel. Et ils sont pris en charge le samedi de 9h du matin à 18h. Et ils ont, pendant les 2 premières heures, un cours de parole professionnelle avec des recruteurs qui leur apprennent à mieux valoriser leurs expériences, leurs compétences. Ça, c'est de 9h à 11h. Ensuite, ils ont un cours de théâtre avec un metteur en scène. Ensuite, ils ont le cours dit de rhétorique classique que j'enseigne. Et puis, à la fin, ils ont un cours de slam avec un slameur extraordinaire. Et donc, voilà, c'est l'idée d'avoir la prise de parole sous toutes ses formes.
Vous les voyez se transformer au fil des mois?
Alors, c'est ça qui est merveilleux parce que on n'a que très peu de temps avec eux, on a 6 samedis. Et y a une
ils ont une vingtaine d'années, hein, donc vraiment.
Ce sont des gamins qui ont entre 18 et 23 ans. Et c'est l'âge où tout est possible encore. Et on les voit vraiment effectivement se transformer, mais de samedi en samedi, c'est extrêmement frappant. Des gamins qui sont un peu emmurés, ou qui sont dans l'inhibition, ou qui sont dans l'autocensure, ce qui est encore pire, qui s'ouvrent petit à petit à la parole, qui font tomber les barrières vers les autres, et puis aussi dans l'introspection, qui arrivent à parler d'eux-mêmes, à chercher le message qu'ils veulent faire passer. C'est très très beau aussi pour nous.
Et vous-même, oui, justement, qu'est-ce que vous apprenez de la parole de ces étudiants-là, de leur trébuchement?
Alors, Moi, j'ai appris 1000 choses à leur contact. J'étais arrivé avec plein d'idées préconçues sur la parole. Parce que dans les concours d'éloquence, d'avocat, à l'université, on a une parole extrêmement formatée avec plein de prérequis. On se dit, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut pas commencer comme ça, il faut pas finir comme ça. Et c'est tous ces préjugés qui ont volé en éclats en Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire que maintenant, j'ai le sentiment que ce qui prime, c'est le fond. Ensuite, la forme, elle peut toujours être améliorée, et c'est à ce à quoi je veille. Mais la parole, c'est d'abord aller chercher en soi son message. Qu'est-ce que je veux dire? Et ensuite, que ça prenne la forme d'un sketch, d'un rap, d'une pièce de théâtre, d'un discours, peu m'importe. Dès lors que c'est bien, que c'est sincère, que c'est authentique et que c'est convaincant, ça me va.
Pourquoi vous affirmez que parler, c'est plus difficile qu'écrire?
Alors, j'affirme. C'est pas non plus un principe fondamental, mais je crois véritablement que parler, c'est plus difficile qu'écrire. Parce que un écrivain, s'il n'est pas content de ce qu'il a écrit, il peut effacer. Il a une gomme, maintenant même sur les ordinateurs, il suffit d'appuyer sur la touche retour, et donc on peut effacer et ça n'existe plus. Chez l'orateur, il n'y a pas de seconde chance. La parole a été délivrée, je ne peux pas la ravaler. Donc, il faut que ce soit bon du premier coup. C'est en cela que c'est un risque de parler.
Est-ce que les jeunes en Seine-Saint-Denis vous disent avoir conscience que leur parole, c'est déjà quelque chose qui les marque socialement, une étiquette posée sur leur front?
Bien sûr, et c'est pour ça qu'ils viennent à Eloquentia. C'est pour dépasser les déterminismes dans lesquels on voudrait les enfermer, les plafonds de verre.
Donc, c'est pas un tabou.
Pas...
Ils l'ont formulé, ça.
Totalement, totalement. Et d'ailleurs, ils le disent dans le film. Il y a une jeune fille qui dit, mais moi, dès le début, on m'a dit, toi, t'as un parler de banlieue, donc tu t'en sortiras pas. Et c'est à ça qu'on essaye de faire front.
Est-ce que les garçons sont plus marqués par leur milieu quand ils parlent que les filles ou pas? Maintenant que vous avez au moins 5 ans d'expérience avec
non,
ce programme.
Et non, encore une fois, la jeune fille que l'on voit qui est de Champigny et qui dit souffrir de cette parole qui la marque et qui l'enferme, c'est une jeune fille, donc ça vaut pour les garçons comme pour les filles.
Et leur motivation, alors finalement, c'est...
Leur motivation, c'est l'insertion. Sous toutes ses formes. Professionnelle, sociale, amicale, citoyenne, politique, associative, parce que la communication orale, c'est la base de tout ça.
YouTube versus Cicéron?
Bien sûr, vive Cicéron.
C'est ça, mais ça va évoluer au fil du programme, évidemment. Ils vont s'approprier aussi certains codes qu'ils ignorent.
Bien sûr, et puis ils vont aussi apprendre à écouter. Parce que c'est très important. L'écoute, c'est le moteur de la prise de parole. On ne peut pas parler seul. Il faut aussi être capable d'écouter l'autre pour échanger les idées, essayer de convaincre. On ne convainc pas tout seul. Si vous essayez de vous convaincre devant le miroir de votre salle de bain, ça va vite tourner court.
Et bien justement, on va écouter nous aussi Bertrand Perrier. Je vous offre l'engagement poétique d'un jeune rappeur devenu écrivain chez les très grands, Gaël Faye.
On sort en trombe, en ombre, on se déverse en plaine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoul ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des youyous stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd, mourir dans une clairière sans treillis pour ce pays. L'affiche et couleur sang, Emmanuchien vient pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde, il a fécondé ta grand-mère, on investit brognard, le dos mûr comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne. On veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux arts miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout, même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans élimés par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a plus 20 ans, mais on n'en aura jamais 60, car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. On fait de nous des enfants pour nous interdire des luttes. Donc nous on pend Peter Pan, on va redevenir adulte. On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage, et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent. À leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit. On occupe du terrain, être indigné ça va de soi. Angela qui prend le choix pendant que ton papa est bien là. On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica. Codépendant des OGM pour nous doper. J'ai recraché l'assiette, monté le cheval et galopé. Braqué un RER, diligence, la pâche de Belleville.
ville. Viendra crier vengeance comme Palavoine arrive en ville. Ils veulent nous assigner des places et nous faire saigner. Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer. Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main de montoir, on ne laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés. On arrivera de l'aube en éruption spontanée.
Irruption, Gaël Faye. Nous sommes en compagnie de Bertrand Perrier, avocat et professeur d'art oratoire, notamment à l'Université Paris 8 Saint-Denis, dans le cadre du programme Éloquentia, un programme tout ce qu'il y a de plus bénévole, hein, bien évidemment.
Ah oui, c'est bien
pas,
sûr.
Ce ne sont pas des cours d'université. Gaël Faye, prix Goncourt des lycéens pour son premier roman Petit Pays, rappeur. Vous trouvez que le rap a apporté quelque chose à l'art oratoire ou pas? Vous, c'est du slam hein, dans le programme Éloquentia.
Oui. Alors, évidemment,
c'est complètement différent, d'ailleurs.
Non, c'est pas totalement différent, c'est la porte à côté. Alors, je suis pas du tout un spécialiste de cette parole-là, mais je crois qu'il y a dans cette parole urbaine quelque chose qui a apporté à la parole classique, et je n'interdis pas du tout aux élèves d'Éloquentia d'utiliser ces rimes, ces rythmes qui font partie de la langue française.
Du moment qu'on apprend aussi l'art oratoire façon antiquité, hein, parce que vous mariez un peu les deux.
C'est pas une antiquité non plus au sens d'une pièce de musée. L'idée, c'est toujours la même, c'est d'être capable de convaincre. Donc, si on doit utiliser cette parole-là de rap pour convaincre, tant mieux.
Qu'est-ce qui caractérise pour vous la génération à qui vous enseignez l'art oratoire dans, je dirais, dans sa façon de se projeter dans la parole par rapport à votre génération, ou même à la génération de Gaël Faye, qui a largement 10 ans de plus.
Oui, ce sont des gamins qui ont véritablement compris l'enjeu de la prise de parole, l'enjeu de la communication orale aujourd'hui, qui se disent que la parole est un marqueur social, qu'elle peut les enfermer, et donc qu'il faut qu'ils en maîtrisent les codes. Ils ont vu trop de portes se fermer.
Alors justement, on pousse les murs. Nous, on donne le numéro de téléphone de notre standard et tous les voisins peuvent vous téléphoner pour parler de leurs problèmes, poser des questions. Babacar, vous êtes à Dakar.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 24 ans, Babacar, et le sujet de l'émission vous a fait vous remémorer un moment, je crois, à la fois un peu difficile quand vous avez passé votre soutenance de mémoire de master. C'est bien ça qui s'est bien passé, d'ailleurs, au demeurant.
Exactement.
Mais vous vous dites, j'aurais pu mieux faire, c'est ça?
Oui, j'aurais pu mieux faire, vu que, en fait, comme vous l'avez dit, je viens de finir un master en économie. Et durant ma soutenance, j'étais plutôt stressé. Donc du coup, j'ai été un peu ennuyeux. Et ça a joué sur ma note. Et durant les critiques, on m'a pas mal critiqué par rapport à ça. Que j'étais pas assez dynamique. Que le contenu était bon. Que si j'étais un peu plus dynamique, que j'aurais pu peut-être avoir une meilleure note.
Vous avez donc eu 16 sur 20. Hein. Alors, on sent que vous êtes effectivement là un petit peu stressé, Babacar, mais à quoi vous attribuez finalement le fait que vous avancez pas à pas quand vous vous exprimez?
Ah oui, en fait, je suis plutôt timide comme personne. Donc, dès qu'il s'agit de prendre la parole devant un public, ou bien pour ce cas-ci, devant un jury, et du coup, je perds mes moyens et c'est pas facile.
Et d'avoir à vous justifier, évidemment, devant un jury, c'est pas une situation très confortable. Merci d'avoir appelé, Babacar. Le jury, c'est quand même pas quelque chose de très confortable, surtout quand il s'agit d'obtenir un diplôme et de justifier son travail.
Bien sûr, c'est une parole qui a un enjeu, qui est le couronnement d'un travail long, donc il y a évidemment une tension, on veut donner le meilleur de soi, et c'est ça qui fait naître le stress en réalité. Le stress de la prise de parole, il est lié à la volonté de bien faire. C'est pour ça que je considère que, somme doute, le stress est plutôt bon signe. Si on n'attend rien de soi, on ne va pas stresser.
Encore faut-il l'apprivoiser. Alors vous restez avec nous, Bertrand Perrier. Vos conseils, vos méthodes pour une parole construite. Comment écrire, structurer sa pensée pour mieux parler ou encore surmonter le vertige du parler sans notes. Appelez-nous tout de suite au 33 1 84 22 71. 71, on accueille Amadou qui nous appelle. Amadou, bonjour, vous êtes à Conakry en Guinée?
Oui, bonjour Emmanuel et bonjour à tous les fidèles auditeurs de la RFI.
Vous êtes un jeune diplômé, je crois, Amadou.
Oui, bien sûr.
Et donc, les affres des entretiens d'embauche, de convaincre des chefs d'entreprise de vous embaucher?
Oui, bien sûr. Je trouve aujourd'hui l'art oratoire ou l'éloquence comme un outil efficace de s'émanciper et bien sûr de pouvoir s'affirmer. Parce que il y a certaines personnes qui n'ont pas la capacité financière pour accéder tout le temps aux grandes personnalités ou aux entreprises ou d'avoir accès à des endroits où il faut trouver des opportunités. Mais si vous n'avez pas cette possibilité, je pense que si vous êtes éloquent, que vous arrivez à vous rencontrer avec une grande personnalité ou à vous rencontrer avec une entreprise pour un entretien d'embauche, je pense que si vous êtes éloquent, c'est un meilleur moyen pour vous, pour que vous soyez retenu, pour qu'on vous retienne, ou même pour que vous donniez une grande impression sur votre personnalité afin que vous ayez votre emploi. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis mon premier entretien d'embauche, c'est avec une télé web qu'on appelle Star 221 TV. Donc, on m'a appelé, j'ai postulé. Quand ils ont fait l'appel à candidature, j'ai postulé et voilà. Ils m'ont appelé, je me suis entretenu avec eux. Et je pense que je ne suis pas encore totalement retenu, mais pour un lobby, je suis en phase de test. Et cette phase de test, c'est parce que j'ai été éloquent, j'ai été, disons, convaincant lors de l'entretien pour qu'ils me disent alors tu peux rester jusqu'à ce qu'on voit ton efficacité afin qu'on te retienne pour un emploi direct.
Et comment vous entraînez-vous? Comment vous préparez-vous?
En fait, je me prépare au préalable. Au début, oui. J'étais très, très, très timide. Mais j'ai vu qu'il faudrait que je change cela parce que la plupart des phénomènes, la plupart de échecs des personnes dans ce monde est liée à la communication, est liée à la parole. Parce que si là, vous n'êtes pas capable à surmonter le défi, vous perdez beaucoup d'opportunités. Et là, moi, qu'est-ce que je fais? J'essaie de suivre des cours sur YouTube, j'essaie de suivre, de télécharger certains documents afin de les lire. Et voilà, télécharger, par exemple, si vous prenez les documents de Dale Carnegie, donc c'est des documents qui m'inspirent beaucoup, je les lis, je trouve la confiance en moi, je trouve que j'ai une capacité, il faut que je l'exploite. Et surtout, tout à l'heure, quand j'écoutais l'émission, j'ai entendu votre invité dire qu'il faut s'entraîner devant le miroir. Et c'est un exercice.
Non, au contraire, hein, vous disiez, Bertrand Perrier, que c'était difficile de s'entraîner seul. Hein.
Oui, parce que ça peut être une première étape, mais à la fin, il faut quand même porter la parole devant le regard de l'autre.
Oui, donc il faut être en groupe, en tout cas, c'est ce que vous préconisez. Oui, Amadou?
Oui, voilà. En fait, l'entraînement devant le miroir, moi, je trouve que c'est une chose très difficile, mais très efficace. Parce que quand vous vous entraînez devant le miroir, vous allez vous sentir comme si vous êtes dans un milieu où il y a plein de monde. Et au contraire, que vous n'êtes que seul. Oui. Et voilà, le fait aussi de s'arrêter devant la masse, entre les amis, discuter avec eux, si c'est dans votre langue maternelle, vous pouvez discuter avec eux très facilement. Mais si vous parlez dans la langue de Molière, le français ou de l'anglais, mais bien sûr, vous allez vous sentir un peu gêné parce que là, vous avez peur de faire des fautes. Mais petit à petit, vous pouvez y arriver parce que là, vous essayez de forcer. Oui. En fait, la meilleure solution, c'est qu'il faut que vous ayez la confiance en vous. Si vous n'avez pas la confiance en vous, vous ne parviendrez jamais.
Et vous faites bien, Amadou, hein, de soulever effectivement parfois la difficulté du bilinguisme hein, pour des auditeurs comme vous. On s'exprime au quotidien dans sa langue maternelle. Et puis ensuite, on revient à la langue officielle. Et là, ça devient effectivement plus compliqué. D'où la nécessité de s'entraîner en groupe avec d'autres étudiants. Bertrand Perrier, est-ce que vous préconisez, vous, d'écrire pour mieux parler?
Alors, l'écrit peut être une première étape, mais il faut écrire dans l'optique de parler. Et écrire pour un texte qu'on dirait silencieusement, c'est pas la même chose que écrire pour déclamer. Donc, il faut que ce que l'on écrit soit susceptible de passer la rampe de l'oralité. Et donc, vous verrez bien si vous faites le test. D'ailleurs, vous allez écrire un discours, il va vous paraître très bien, vous allez le lire, il va vous paraître formidable. Puis après, vous allez le dire et vous allez voir qu'il y a une phrase trop longue, qu'il y a une liaison sur laquelle vous allez achoper, que votre souffle ne vous permet pas de dire cette phrase en entier. Et donc, vous allez la corriger. C'est-à-dire que le passage de l'écrit à l'oral suppose souvent que l'on corrige ce que l'on a écrit.
Alors, il y a toute une liste de pièges, d'erreurs à ne pas commettre quand on prépare un discours, quand on prépare d'ailleurs, ça peut être un entretien, un oral. C'est tout ce qui vous énerve et que vous préconisez d'éviter à vos étudiants.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est-à-dire
Les formules un peu triviales, les formules journalistiques, les formules toutes faites, la vulgarité. J'ai jamais pensé qu'un mot vulgaire était une nécessité dans un discours, sauf si vraiment vous voulez mettre un coup de poing. Mais voilà, donc les formules toutes faites.
Les formules aussi du type « quand j'ai vu le sujet, je me suis dit ».
Ah oui, alors ça c'est quelque chose que l'on rencontre très souvent dans les concours d'éloquence, c'est ce qu'on appelle le métadiscours, c'est-à-dire le discours sur le discours. Et c'est-à-dire que l'orateur se regarde faire alors c'est très confortable, c'est assez facile, et donc on le voit très souvent, et c'est devenu un topos des concours d'éloquence, et c'est un peu pénible.
C'est ce qui s'appelle tourner autour du pot.
Oui, hein. C'est ça, c'est quand j'ai vu le sujet, j'ai pensé que, alors là je me suis dit, et puis j'ai retourné le sujet, puis je l'ai refait. Oui, bon, allons-y, allons droit au but.
Les poncifs, les banalités, les lieux communs, et évidemment vous n'épargnez pas les formules journalistiques. Alors, c'est au creux de la vague, le scénario d'une crise globale, le bras de fer, le baroud d'honneur, les dés sont pipés.
Oui, ce sont ces formules toutes faites qui parsèment le discours journalistique et qui, en fait, ne veulent pas dire grand-chose. Ce qui est important dans le discours, c'est de faire la chasse aux mots inutiles. Tout doit être tendu vers l'idée de convaincre. Et donc, tout est au service de cette finalité, et si ça ne concourt pas à la conviction, il faut l'enlever.
Pourquoi conseillez-vous encore aujourd'hui de fréquenter le dictionnaire ?
Parce que la fréquentation du dictionnaire, c'est la condition de la précision du lexique. La parole, elle naît des mots. On parle avec des mots. Et on sait par exemple que, je prends un exemple, mon institutrice me disait toujours que les verbes « être »,« avoir » et « faire » pouvait toujours être remplacé par un verbe plus précis. Donc faisons l'effort d'aller chercher dans le dictionnaire le mot qui correspondra le mieux à votre idée. Sinon, vous avez une parole approximative parce que vous avez des mots approximatifs.
Est-ce qu'on prend le temps que vous nous expliquiez, parce que ça c'est extrêmement important quand vous travaillez avec les étudiants en Seine-Saint-Denis, les étapes du discours. Alors là, vous employez pour le coup des mots savants, exorde, narration, argumentation, réfutation.
Oui.
Pourquoi c'est si important, toutes ces étapes ?
C'est des mots qui peuvent apparaître un peu compliqués, mais qui sont très nécessaires à la conviction. L'exorde, c'est le démarrage. Je dois démarrer en attirant sur moi la bienveillance. Si dès mes premiers mots, je n'attire aucun intérêt, ou si j'attire un intérêt malveillant, c'est-à-dire si je ne suis pas capable d'attirer la sympathie sur moi, ça ne marche pas. Donc, dès le début, les premiers mots sont déterminants et il faut absolument, avant toute prise de parole, connaître son démarrage. Parce que c'est extrêmement stressant de se jeter à l'eau. Donc, au moins, si on connaît ces 2-3 premières phrases, ça diminue la dose de stress et ça facilite beaucoup les choses. Ensuite, évidemment, l'argumentation, c'est le cœur, c'est pourquoi j'ai raison, quels sont mes arguments, est-ce que ce sont des arguments par comparaison, est-ce que ce sont des arguments par analogie, est-ce que ce sont des arguments au contraire par l'absurde, donc mes arguments. Et ensuite, la réfutation. C'est très important la réfutation parce qu'il faut aussi convaincre que la thèse adverse est inexacte. Convaincre que votre thèse est juste, c'est une chose, mais il faut aussi déminer ce que pourraient dire les objectants, c'est-à-dire vos adversaires. Donc,
ce que font les politiques. Hein. Sur le modèle des politiques.
Donc, pensez à réfuter. Et puis, la péroraison, c'est quand même très important de clôturer par une phrase qui fasse que le discours a une fin. Et là encore, connaissez votre fin. Parce que sinon, le discours va s'étirer en longueur et il va se terminer en autre boudin et ce ne sera pas bon. Donc, veillez à ce que vous ayez une fin prévue qui signale à tous vos auditeurs que vous avez fini de parler.
Alors là, c'est dans l'optique où on a des fiches hein, pour faire un discours pour répondre à des questions dans des médias. Mais c'est posé à un moment à vous dans votre parcours la possibilité de parler sans notes. Comment est-ce qu'on peut apprivoiser cette situation qui est tout à fait vertigineuse d'arriver de parler sans notes ? Est-ce que ça, d'ailleurs, vos étudiants y sont entraînés ?
Oui, alors je les entraîne à l'improvisation parce que je crois que c'est la forme achevée de la parole. Je ne dis pas qu'on ne peut jamais écrire un discours, mais je crois que le vertige de l'improvisation, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Et il y a dans l'improvisation une adrénaline qu'on ne retrouve pas dans la déclamation, c'est-à-dire le fait de délivrer un discours que l'on a préparé en amont. Et le vertige de l'instant, ça c'est merveilleux, c'est un frisson tout à fait particulier. Alors, je ne dis pas que l'improvisation ne naît de rien. L'improvisation, c'est pas le n'importe quoi et c'est pas une génération spontanée de mots qui viendraient. L'improvisation, en réalité, elle naît de toute votre vie. elle naît d'idées que vous avez, de convictions que vous avez, elle naît de tout cela. Mais ces idées, ces convictions, elles prennent forme dans l'instant. C'est ça qui est beau dans l'improvisation, c'est que les idées préexistent, mais dans l'instant, elles trouvent les mots qui les incarnent.
Est-ce qu'encore aujourd'hui, vous avez un souvenir précis de rencontre avec l'improvisation ou l'improvisateur de génie ?
Ah oui, j'ai un souvenir extrêmement précis et extrêmement douloureux, extrêmement cruel. Je me souviens d'une joute oratoire que j'avais faite avec un avocat genevois qui est devenu mon mentor absolu, qui s'appelle Marc Bonan. J'invite tous vos auditeurs à aller regarder des vidéos de Marc Bonan sur Internet. C'est un orateur totalement exceptionnel, absolument stratosphérique. Et moi, j'avais mon papier, puisque comme tous les bons élèves, j'avais préparé mon petit discours. Et donc, j'ai lu mon petit discours. Il était mon contradicteur et lui était dans l'improvisation totale. Parce que celui qui devait être mon contradicteur était malade et n'était pas venu. Et donc, il m'avait dit, mais je serai votre contradicteur, vous ne pouvez pas gagner par forfait. Et là, lui qui est un improvisateur absolument génial, a regardé mon papier sur mon petit pupitre et il m'a dit... Débarrassez-vous de ce support d'infirme. Et ce jour-là, j'ai compris que le papier, c'était très rassurant. C'est l'effet doudou du papier. Le papier, ça vous rassure, comme un enfant qui a sa peluche. Mais au fond, ça vous enferme.
C'est ça, il vous dit, écoutez votre parole intérieure.
Mais bien sûr, parce que sur le moment, vous avez une petite voix qui vous parle et qui vous dit, les mots vont venir. Et là, il y a aussi une question de débit. Si vous parlez trop vite, les mots ne viendront pas. Mais si vous laissez le temps de voir les mots remonter à la surface, là c'est merveilleux.
Alléluia, s'il saillant meurt, on mourra quand Carlos pourra, ou quand y'aura un ouragan, en Europe adoura, ou Dipi pourra, le flow et la longue comme un boa. Frappe, joue le balboa, athlétique comme Bilbao, et comme Bora Bora, mystique tel David Bowie. Vis solo, rapide comme le vent, rien comme le vent, je couche les ignorants comme un mal au devant.
Le sagan souvent griffe de maille sans jamais soigner. Rapide comme le vent, emportant les femmes enflammées. C'est une flamme de cyclone, décime la masse affamée. Désormais sur la plage de Rennes-Marie. Le sagan souvent griffe de maille sans jamais soigner. Rapide comme le vent, emportant les femmes enflammées. C'est une flamme de cyclone, décime la masse affamée. Désormais sur la plage de Rennes-Marie. Le rat de marée, sur le micro ramène une bouée. Entraîne-toi tous les jours, tous les mois, s'il faut toute l'année. Son boy, tu peux te marrer, mais sans la main, tu es entraîné. Viens chez moi, si tu veux, je te donne des cours particuliers. Boy, 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 déserte le son pour le clash. T'es pas très doué.
Explique à tes potes
combien de victimes sont touchées. Voici la combinaison des remèdes ayant la manie
éliminée.
À tous les divinités, soir, ce vos courants ne vont tomber.
Écoute l'écho des fleurs,
des sandboys
ayant pété.
Enfermés dans une cage,
à présent,
ils ne peuvent s'échapper.
À quoi de ne pas réfléchir?
Tous ces actes, il faut les assumer.
Un son de plus est tombé.
Ouais, mais les suivants n'ont qu'à se méfier.
Le rat de marée, sur le micro ramène une bouée. Entraîne-toi tous les jours, tous les mois, s'il faut toute l'année. Sandboy, tu peux te marrer, mais sur la match, tu es entraîné. Viens chez WAM, si tu veux, ça donne des cours particuliers.
Le sagan souvent griffe de maille sans jamais soigner. Rapide comme le vent, emportant les âmes enflammées. C'est une flamme de cyclone, décime la masse affamée. Désormais sur la plage de Rennes-Marie. Le sagan souvent griffe de maille sans jamais soigner. Rapide comme le vent, emportant les âmes enflammées. C'est une flamme de cyclone, décime la masse affamée. Désormais sur la plage de Rennes-Marie.
Sentant que-t-il tous passer, spectre débarque, maintenant tout se passe au passé. Ta bande de bâtards, le dangereux gaillard.
Où tient le monde?
Je tiens le monde et je brise tout ce qui se rapproche à tout ce qui te sert de vie que je méprise.
S-S-C. Toi, cherche pas ton blase dans un tico. Qu'un dénonce auquel tu dis go. Mais rien à rien, ça ne mène à rien. Le nom fait pas le flow, mais le flow fait que ton nom déco. Trois interviews par Federico. Puis tu feras des ricochets.
Radio, radio.
Un tube à la Roberta et Chico. Un rap qui fait si froid dans le dos. Contrat sponsorisé par Miko. Tu recommences ça. Tu recommences ça. Parce que t'es bon, mec, c'est nul de hors commence. Illico, c'est marre. Préviens les autres malades imaginaires. Que tu t'es piqué, pique rapido.
Le sagan souvent griffe de maille sans jamais soigner. Rapide comme le vent, emportant les âmes enflammées. C'est une flamme de cyclone, décime la masse affamée. Désormais sur la plage de Rennes-Marie.
Ben Bertrand Perrier, un auditeur nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Saïd est à Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Bonjour Saïd.
Bonjour madame.
Vous êtes délégué du personnel et ça vous cause des difficultés de parler et la parole dans ce cas est ô combien essentielle.
Oui, effectivement c'est beaucoup essentiel, mais quand moi je me trouve dans une situation où je dois parler autour de 20 ou 25 personnes minimum quoi, je perds tous mes moyens, je ne peux plus rien dire en fait.
Mais vous préparez, vous arrivez avec une petite fiche?
Oui, j'ai des notes, en fait c'est quand j'ai des notes, mais il y a encore plus de problèmes. Ah. En fait, c'est des choses qu'on prépare entre nous d'abord.
Oui.
Et puis, on doit venir exposer peut-être devant le public. Là, c'est...
Oui, parce qu'évidemment, votre parole publique doit être fidèle à ce qui a été décidé dans la communauté du syndicat, si vous êtes délégué du personnel, hein, j'imagine.
Oui,
donc,
oui,
vous ne pouvez
oui.
pas dire ce que vous voulez. Bertrand Perrier, comment peut-on aider Saïd à Bobo Dioulasso?
D'abord, Saïd, sachez que votre situation est extrêmement fréquente. Ce qu'on appelle la glossophobie, c'est-à-dire la peur de parler en public, dans les sondages, vient avant la peur de la mort. Donc, la peur de parler en public, c'est quelque chose d'extrêmement répandu. La deuxième chose, Saïd, ce qu'il faut que vous disiez, c'est que votre public n'est pas aussi malveillant que vous le pensez. Personne n'a à gagner à ce que vous ratiez votre prise
oui,
de parole.
Oui, enfin là, quand on parle au patronat, c'est compliqué quand on est délégué du personnel. On parle au management.
Bien sûr qu'il y a une forme de tension et de concentration, c'est parfaitement normal. Mais pour autant... Même le patron n'a pas intérêt à ce que vous soyez dans l'incapacité à délivrer votre message. Le message du délégué du personnel, il doit passer dans l'entreprise. Et donc, après, je ne dis pas qu'il sera reçu, mais au moins il doit passer. Et donc, moi, je vous conseille, Saïd, vraiment, connaissez par cœur votre début et votre fin. Ça diminuera la dose de stress.
Donc, apprendre par cœur, on est bien d'accord.
Oui, à ce stade-là, apprenez-le par cœur. Sur le moment, peut-être que vous aurez une inspiration qui fera que vous trouverez
et
autre
donc,
chose.
Une fois que le début s'est bien passé, et ben on continue sur la lancée.
Bien
c'est
sûr,
ça
on prend ouais. confiance.
Saïd, vous avez bien entendu le conseil de l'avocat orateur.
Oui, mais pour moi, là, c'est depuis l'école. Ça n'a pas commencé maintenant ni aujourd'hui.
Oui, c'est depuis l'école, bien sûr. C'est un vieux mauvais souvenir, mais qui va s'effacer avec de la technique.
Le souvenir va s'effacer avec la pratique. Un autre petit conseil, Saïd. Faites l'exercice de... Tous les jours, parlez 2 minutes sur un sujet. Prenez dans l'actualité un sujet qui vous choque, un sujet qui vous surprend, un sujet qui vous fait rire. Et dites-vous, tiens, je suis à RFI avec Emmanuel Bastide et je ferai bien une petite chronique radio. 2 minutes. Et comme ça, si vous le faites tous les jours, la parole deviendra banale et ce sera beaucoup plus facile. Elle ne sera plus exceptionnelle. Ce qui fait que vous êtes stressé, c'est que vous ne prenez pas la parole tous les jours. Et donc, si vous prenez la parole tous les jours, même devant 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, ça deviendra habituel pour vous et vous ne serez peut-être pas plus stressé, mais moins stressé.
Voilà. Eh bien, écoutez, vous gardez bien en mémoire notre numéro de téléphone. Saïd, on est à votre disposition. C'est d'accord ?
D'accord, madame.
Merci beaucoup
Merci
de nous
beaucoup.
Avoir appelés. Moi, c'est Emmanuel. Hein. Allez, on est entre nous, on est entre voisins, hein, Saïd. Très bonne journée
d'accord.
Bobo Dioulasso. Parler dans les médias, alors voilà, on a beaucoup de voisins qui sont interviewés dans les médias, Bertrand Perrier, vous dites qu'il y a 2 questions essentielles, c'est pourquoi moi et pour dire quoi? Vous êtes venu en vous disant ça là aujourd'hui?
Oui bien sûr, je viens en quelle qualité? Je viens parce que j'ai écrit un livre sur l'art oratoire, vous ne me recevez pas en tant qu'avocat, ce sera peut-être le cas, donc pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que j'ai écrit ce livre, et pour dire quoi? Pour parler d'art oratoire. Donc, bien évidemment, il faut s'interroger avant d'aller dans un média sur les raisons de votre invitation et le message que vous souhaitez faire passer. Nous avons peu de temps. Là, nous avons le temps, nous avons quasiment 1 heure. Mais parfois, on a 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Et donc, il faut savoir à l'avance quels sont les 2-3 messages que l'on veut faire
voilà.
passer.
Alors, on n'a pas tout dit. Il y a beaucoup de choses dans votre livre, Bertrand Perrier. Ça s'appelle « La parole est un sport de combat ». L'avocat coach du film « À voix haute » nous raconte sa méthode pour convaincre, puisque vous étiez l'objet de ce documentaire pour le programme Eloquentia auprès des étudiants de Seine-Saint-Denis. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission ?
Avec plaisir.
On va donner la parole à une femme, Chérine Cancan. À l'été 2016, cette Danoise ouvre en plein centre de Copenhague la première mosquée pour femmes en Europe, la mosquée Mariam, dont elle est l'imam. Et c'est elle qui conduit donc la prière collective du vendredi. Il existe des femmes en Afrique du Sud qui sont imams, en Chine, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, mais évidemment c'est encore assez rare. Shérine Cancan est née au Danemark d'un père syrien musulman non pratiquant, ancien opposant politique au régime syrien, et d'une mère finlandaise chrétienne luthérienne. Elle est mère de 4 enfants et elle publie « La femme et l'avenir de l'islam ». Cerise Maréchaux l'a rencontrée.
À la mosquée Mariam, nous tenons la prière du vendredi, ainsi que des séances hebdomadaires de soins spirituels. C'est-à-dire que nous apportons à nos fidèles des conseils quant à leurs problèmes personnels. Et puis, nous organisons les événements tels que les mariages, les divorces, les conversions. Nous prévoyons aussi de former la future génération de femmes imams. Nous sommes sur le point d'inaugurer une académie islamique ouverte à tous. Nous y enseignerons la jurisprudence islamique, la langue arabe, la conduite de la prière du vendredi, la philosophie islamique, le soufisme et le féminisme musulman.
Quels sont les principes fondamentaux de ce féminisme musulman ? En termes de droits, les femmes sont-elles les égales des hommes dans le cadre de l'islam ?
Nous croyons que le Coran affirme l'égalité entre hommes et femmes, mais que dans la vie réelle, il est interprété et appliqué selon une vision patriarcale. Donc nous défions cette interprétation patriarcale du Coran. À la mosquée Mariam, nous encourageons la relecture du Coran en mettant l'accent sur le droit des femmes. Ce n'est pas une approche réformatrice, car en fait, nous retournons au message originel du texte, sacré et fondé sur l'égalité des genres. Le Coran dit très clairement qu'hommes et femmes sont égaux et devraient répandre le savoir. Au début de l'islam, des femmes conduisaient la prière du vendredi pour d'autres femmes.
Let me give you a concrete example.
Voici un exemple concret. Le Coran dit que les hommes héritent plus que les femmes, car à l'époque, les hommes étaient de fait responsables économiquement de leur foyer. Mais aujourd'hui, la plupart des femmes sont indépendantes économiquement. Donc ce verset n'est plus d'actualité. Voilà comment on peut relire le Coran dans les contextes de notre époque et de nos sociétés.
Qu'autorisez-vous de différent, de nouveau, pour les musulmanes d'aujourd'hui à la mosquée Mariam ?
À la mosquée Mariam, nous avons établi un contrat de mariage qui garantit aux femmes le droit de divorcer. La polygamie est interdite. Et en cas de violence psychologique ou physique, le mariage est annulé. Et si le couple divorce, la femme a des droits sur ses enfants au même titre que les hommes. L'an dernier, j'ai célébré 16 mariages. La moitié des mariages étaient interreligieux. Aujourd'hui, dans la plupart des communautés musulmanes, les femmes n'ont pas le droit d'épouser un juif ou un chrétien. Pourtant, les hommes, eux, peuvent épouser une juive ou une chrétienne. Moi, j'ai 2 filles. La probabilité qu'elles tombent amoureuses de non-musulmans est grande, puisque nous vivons en Europe. Et c'est l'un des principaux enjeux de notre époque. En Tunisie, le président vient d'autoriser le mariage interreligieux pour les femmes. Et cette loi est soutenue par un groupe d'ouléma. Donc, chaque jour, il y a du changement.
Vous dites, Shérine Cancan, que le changement doit venir de l'intérieur pour être efficace. Le féminisme musulman, ou les femmes musulmanes aujourd'hui, peuvent-elles être un outil d'apaisement du malaise et des tensions auxquelles font face les musulmans aujourd'hui au sein des sociétés occidentales ? L'islamophobie et l'extrémisme religieux d'autre part.
Pour moi, il faut dépasser les genres. Le féminisme musulman est un outil. Et à la mosquée Mariam, nous essayons de déconstruire les discours qui cherchent à séparer, à opposer l'Orient et l'Occident. Les chrétiens et les musulmans, les juifs et les musulmans, la foi et la laïcité. Nous défions aussi les islamistes qui disent que les jeunes musulmans ne doivent pas voter, car ils ne croient pas à la démocratie, et qui disent que seul Dieu serait source de loi. Notre approche est aussi la meilleure façon de combattre l'islamophobie, car il est bien difficile de s'accrocher à une vision de l'islam comme religion oppressive pour les femmes quand on voit des musulmanes devenir des décideuses. Parfois on dit que la mosquée Mariam représente une minorité. C'est faux. Le problème est que souvent dans les médias, ce sont les voix radicales que l'on entend. À la mosquée Mariam, nous avons eu la visite du grand imam de Jakarta, en Indonésie. Il a prié avec nous, a béni la mosquée et le concept de femme imam. Et il représente 200 000 musulmans à Jakarta.
Comment pouvez-vous atteindre directement les personnes, notamment les jeunes, qui sont déjà sous emprise et qui sont déjà radicalisées?
La mosquée Mariam attire principalement une nouvelle génération de musulmanes qui sont sensibles à l'approche soufie, spirituelle de l'islam. Je pense que ces femmes, de retour chez elles après la prière, elles sont susceptibles d'avoir des conversations avec des proches, parfois avec un compagnon plus conservateur qui peut même être sur la voie du radicalisme. Les femmes pourront débattre avec eux et montrer une alternative. Et le changement le plus efficace passe par les proches, et c'est certainement plus efficace que la diabolisation. Parfois, on pense qu'il est impossible de changer ce statu quo, mais en fait, il suffit d'agir. Moi, j'ai été inspirée par l'activisme de l'imam Amina Wadud à New York, qui a conduit une prière mixte en 2005. J'espère que nous, à la mosquée Mariam, nous pouvons inspirer d'autres femmes à faire comme nous.
Sherine Kankan, c'est ce qui s'appelle parler sur une poudrière.
Ah oui, alors mettre le pied. Pour elle, évidemment, la parole est un sport de combat.
Mais plus largement, sur la parole publique des femmes, relativement récente sur des sujets difficiles.
Oui, bien sûr, parce que la parole, c'est le pouvoir, et longtemps, le pouvoir, ça a été les hommes. Il est temps que ça change. C'est d'ailleurs le cas au barreau, chez les avocats, où...
Les femmes sont majoritaires.
Les femmes sont majoritaires, mais on a l'impression, quand on croise les confrères dans les cours d'assises, que c'est plutôt un concours de testostérone, alors que les femmes ont toute leur place dans la profession, et il faut absolument qu'elles prennent la parole. On ne la leur donne pas si facilement que ça. Donc, mesdames, prenez-la et écartez les hommes et venez à la barre et portez la parole de vos clients. Et en politique aussi, il y a toute une série de barrières, de réflexes sociaux qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, donc la parole est faite pour tout le monde. Elle est un sport de combat et c'est un sport mixte.
Quand vous formez des jeunes filles dans le programme Eloquentia, est-ce que vous avez une attitude différente, vous formez différemment, vous tenez compte du sexe ou pas? L'orateur a un sexe?
Alors, est-ce qu'il y a un sexe sous l'orateur? Oui, probablement, ne serait-ce que physiologiquement, par la question de la voix. Parfois, les femmes ont besoin de plus porter la voix pour se faire entendre, alors que les hommes, c'est plus naturel, que c'est plus grave, donc ça, c'est physiologique. Après, non, j'ai pas l'impression d'enseigner différemment à un garçon et à une fille, et d'ailleurs, au programme Eloquentia, c'est assez amusant, puisque alternativement, le concours est gagné par un garçon, une fille, un garçon, une fille, un garçon, une fille. Donc, sachez-le, mesdemoiselles, normalement, en 2018, c'est une fille qui doit gagner.
Mais c'est, ça se fait comme ça?
Oui, c'est très naturel. S'il n'y a évidemment aucune volonté de quelque nature que ce soit. Ce qui est important, justement, c'est que les filles, à l'égal des garçons, fassent cette démarche de prendre la parole, de faire ces exercices, qui sont effectivement plus ou moins les mêmes garçons-filles. Mais l'important, c'est qu'elles prennent vraiment leur place dans la cité.
Et il y a beaucoup de jeux aussi dans votre livre. Hein, de jeux,
oui, il y a plein de petits exercices pratiques qu'on peut faire chez soi. Le dimanche en famille, de débats, d'exercices de gestes, de voix. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut faire seul ou en groupe pour s'améliorer dans la prise de parole en public et gagner en confiance en soi.
À portée de tous. Donc, merci à vous, Bertrand Perrier. Vous démarrez bientôt la 6e édition du programme Eloquentia. Ça sera en janvier prochain et vous publiez La parole est un sport de combat. Merci à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Baptiste Madinier, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur les rumeurs. Offrandes mystérieuses, morts douloureuses, pourquoi une simple rumeur se répand-elle comme une traînée de poudre? Comment entraîne-t-elle parfois le lynchage de personnes accusées d'être des tueurs dans certains pays? On en parlera demain.